Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive Marie? T'as l'air de mauvaise humeur.
Rémi, j'ai envie de râler. Ce qui est terrible quand on ne fait qu'un amplifié toutes les deux semaines, voire moins, c'est que toutes les bonnes unes, les articles croustillants, c'est toujours la semaine où on ne fait pas l'amplifié, donc pas de revue de presse. Et c'est comme ça qu'on a raté, pas plus tard que le 19 janvier, la magnifique une de Marianne, un peu dans la lignée de leur fameuse couverture Les Nouveaux Censeurs le 1er décembre dernier, cette fois-ci en très gros, accusé, planqué, gêné, muet, libérons la parole des hommes. Vous comprenez, elles sont bien gentilles les gonzesses à prendre toute la place sur Twitter, hashtag MeToo c'est très bien, mais ça ne parle pas assez des hommes. Je ne commenterai pas les merveilleux points de vue d'hommes de Frédéric Becbédé ou de Tahar Benjelloun. Je ne commenterai même pas la mention Jacques Julliard contre l'ordre moral. Jacques Julliard a un côté super-héros, super-éditorialiste, il est comme ça, il fait des points Godwin plus vite que son ombre, et on laisse les juifs partir de France, on est comme le Troisième Reich. Il fait des néologismes pour expliquer ce qu'il se passe, je cite, « un nouveau partage du pouvoir à l'intérieur du condominium libéralo-libertaire règne, la gauche sous la forme de l'intelligentsia bobo, etc. etc. » En substance, il dit que la gauche a fait un pacte avec le macronisme, aux macronistes le pouvoir politique, aux lambeaux de gauche le pouvoir moral. À l'aise Jacques. Non, je ne reviendrai pas sur tout ça. On enchaîne.
Ça vaut mieux, oui. Alors à ce moment-là, on va peut-être enchaîner sur un portrait.
Alors oui, j'étais en salle périodique de la bibliothèque Diderot cet après-midi et la couverture assez humoristique de M, le magazine du Monde, a attiré mon attention. Bon, en gros, c'est une photo mal cadrée d'Édouard Philippe, une tête plus haut que tout le monde, avec comme titre « C'est l'histoire d'un grand type ». Ça commençait un peu comme une blague, c'était un peu catchy, j'ai ouvert le magazine. Bon, en fait, c'était assez décevant. J'ai vu Ariane Chemin quand même un peu plus inspirée que ça. Parce que bon, finalement, ça reste un portrait du Premier ministre très bateau. Alors oui, il est grand, il fait telle taille, on va regarder combien coûtent ses costumes, parce qu'on fait ça depuis l'affaire Fillon, et puis il est pote avec un tel et un tel. Et d'ailleurs, il est surtout pote avec des mecs, tiens, comme c'est original pour un homme politique. Et puis il surjoue un peu son côté normand. Pas plus que moi, sans doute. Bref, un portrait d'homme politique qui aurait gagné à être plus politisé, justement, et qui aurait aussi gagné à creuser un peu plus la sociologie et les réseaux du Premier ministre. Enfin bref, à problématiser davantage, un peu plus que juste « Tout le monde dit d'Edouard Philippe qu'il est un mec sympa et un sphinx. Est-ce que c'est un mec sympa et un sphinx ?» Ariane Chemin elle-même avoue avec un peu d'autodérision que c'est pas un super portrait à la toute fin de l'article. Je cite « Je vois bien que vous êtes en train de penser, lâche le Premier ministre sympa en déployant ses longues jambes pour quitter son canapé. Vous vous dites « J'ai un portrait à faire et je n'ai pas d'angle. »
Bon, je vois que tu fais encore la tête. Est-ce que tu aurais peut-être trouvé quelque chose à épingler dans le Figaro cette semaine?
Oui.
Ah,
bordel de nom d'un chien. Dans les colonnes de mon quotidien préféré ce matin, l'éditorial est signé Patrick Saint-Paul. Le mec est quand même chef du service international du Figaro. Mais il ne s'est manifestement jamais renseigné sur, je sais pas, la pensée postcoloniale, la critique de l'exotisme, l'orientalisme, quelque chose. Non, ça donne un édito orientalisant à plein régime. Je cite « le cimetière des empires ». Alors, le cimetière en question, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan éternel, tu vois. Celui où tous les grands de ce monde, ou à peu près, se sont brisés les dents. Gengis Khan, les Britanniques, les Soviétiques et maintenant les Américains qui y sont enlisés depuis 2001 dans ce, je cite, « royaume de l'insolence ». Oui, Patrick Saint-Paul parle bien de l'Afghanistan. Donc, royaume de l'insolence pour lequel ils ont dépensé l'équivalent financier d'un plan Marshall. Waouh, c'est assez fou qu'en 2018, on puisse noyer une analyse géopolitique qui, ma foi, peut peut-être avoir sa pertinence, sous une couche si épaisse de condescendance, je cite encore. Alexandre le Grand avait su apprivoiser ce pays fascinant où l'horrible côtoie le sublime. Merci Patrick pour ce jugement anhistorique et orientalisant tout à fait fondé. L'Afghanistan mystérieux et rebelle, quoi. Rebelle à quoi? Aux puissances coloniales et néocoloniales, j'ai envie de dire. On passera aussi sur ce petit moment de manuel de conseil au président Trump en mode « Tu ferais mieux de faire comme un conquérant du 4e siècle, ça marche mieux pour soumettre d'autres peuples. » Parce qu'Alexandre le Grand, tu comprends, il lisait Hérodote au lieu de tweeter, lui. que de pertinence historique et de remarques utiles. Merci les éditos du Figaro.
Alors que tout le monde sait que Donald Trump en est resté à 3 millions d'années avant la création de la première bactérie. Bref, est-ce que malgré tout, tu as trouvé des lectures à nous recommander dans la presse cette semaine ?
Oui, rassure-toi. Alors, je vous conseille dans le Monde diplomatique de février l'article du sociologue Michel Bozon. Je cite « Transformation de la sexualité, permanence du sexisme ». C'est limpide, c'est pédagogique, on aime bien, c'est très 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 bien. Bozon décortique le paradoxe. Si les enquêtes statistiques montrent que, depuis le milieu du XXe siècle, la sexualité est de plus en plus égalitaire entre les hommes et les femmes, donc dans les rapports hétérosexuels, pourquoi y a-t-il autant de comportements sexistes dans l'espace public, le monde politique et les lieux de travail ? Réponse, parce que la violence sexiste, même si elle s'exprime sur le terrain de la sexualité avec le harcèlement, la drague insistante, les agressions sexuelles, les viols, ça n'est pas du sexe, ça n'est pas une pulsion sexuelle, c'est l'affirmation et même la réaffirmation, avec des nouvelles techniques, de la domination masculine. C'est une manière de, je cite encore, signifier aux femmes leur illégitimité professionnelle ou leur subordination aux hommes. Weinstein, en somme, ne harcelait pas parce qu'il était amoureux ni même parce qu'il était physiquement attiré, il harcelait pour marquer son pouvoir. Je vous ajoute également la suggestion du jour de Mathias, qui vous recommande l'enquête consacrée par Les Inrock à la question de l'homophobie. L'homophobie tue. Et enfin, je vous recommande à mon tour, toujours dans le Monde Diplo, l'article « Intégration, la grande obsession ». Est-ce que les Polonais du passé étaient vraiment mieux intégrés ou plutôt mieux assimilés que les Maghrébins d'aujourd'hui en France ? Une petite remise en perspective historique et une dénonciation du « deux poids, deux mesures ». Ainsi, en 2016, des centaines de descendants portugais ont fêté la victoire du Portugal sur la France au championnat d'Europe de foot. Tout drapeau sorti, personne n'a crié au scandale, à la menace, au déclin français. Et c'est bien plutôt sur les conditions de vie des populations immigrées en France qu'il faut revenir. J'arrête là pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Et merci beaucoup à toi, Marie. Et puis, on en profite, en effet, pour faire un grand bonjour à Mathias, qui, j'en suis sûr, nous écoute du fond des tréfonds noirs de la Grèce.
Des tréfonds de Flaubert, surtout.
Voilà. Bonjour, Mathias.